Disclaimer. Le terme « femme » employé dans ce podcast désigne les femmes cisgenres comme les femmes transgenres. Une personne cisgenre est une personne dont le genre ressenti est en accord avec le genre attribué à la naissance. Une personne transgenre est, pour reprendre les mots d'Amnesty, une personne dont l'expression de genre et ou l'identité de genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. Le terme « homme » employé dans ce podcast, lui, désigne les hommes cisgenres.
Vamos!
Vamos!
Nous sommes le 23 septembre 2020. Tabloïd et Slurp partagent la scène en plein air, Covid oblige, de la cour du Trabendo en partenariat avec le Supersonic à Paris. Ça fait des mois qu'on n'a pas vu de concert. On a été confinés, puis on est parti un peu en vacances pour les plus chanceuses et chanceux parmi nous. Ça a été la rentrée et voilà qu'on a l'occasion de pouvoir enfin revenir danser un peu. Alors on est venu. Malgré la pluie, on est venu se visser sous la bâche avec nos masques humides parce qu'on voulait écouter du rock et voir des filles sur scène. En tout cas, moi, c'est pour ces deux raisons que je suis venue. Les groupes féminins en live, c'est mon petit plaisir personnel parce qu'elles me font penser à ces Riot Girls que j'ai pas connues. C'est mon kiff. Alors ouais, ça fait des mois qu'on n'avait pas mis les pieds à un concert. On y est. Et ben mince.
On s'appelle Tabloïd. Merci pour votre accueil.
Ce qu'on entend, c'est le morceau Rebel Girl de Bikini Kill. Et oui, un énième podcast à ce sujet qui passe cette chanson. Pour celles et ceux qui connaissent ne serait-ce qu'un tout petit peu le courant Riot Girls, je sais, vous n'en pouvez plus de l'entendre. Pourtant, elle est un peu l'hymne du mouvement punk féministe. Pour les présenter brièvement, les Riot Girls se sont assemblées dans les années 90, aux États-Unis pendant la troisième vague du féminisme, revendiquant l'importance de l'intersectionnalité et donc de l'antiracisme et de l'implication des personnes issues de la communauté LGBTQI+ dans la lutte. Parmi ces filles, et oui, je dis bien filles, parce qu'elles ont volontairement détourné ce mot qu'on utilisait pour les désigner et les rabaisser tels des enfants, on nomme notamment Caitlyn Anna, chanteuse du groupe Bikini Kill et leur fameux slogan « Revolution Girls Style Now » et d'autres groupes comme Bratmobile, Sleater-Kinney et tant d'autres. À une époque où l'on pense que le droit de vote et l'accès à la contraception sont plus ou moins le summum de l'acquis en termes de droits des femmes, les Riot Girls pointent du doigt les violences sexuelles, les dictats de beauté liés à la minceur et à la blancheur et la misogynie ambiante qui veut rendre illégitime leur présence dans la société et donc sur la scène musicale. Elles veulent faire exploser les tabous. Artistes totales dessinant, faisant de la photo, du spoken word qui est une sorte de poésie ressemblant à du slam, montant des magazines engagés DIY plus connus sous le nom de fanzine, les Riot Girls ont fait grandir une idéologie à partir d'une colère face aux inégalités sexistes, d'une envie d'émeute pour se faire entendre et prendre l'espace. Malgré sa courte durée dans le temps d'environ 5 ans, le mouvement réussit à marquer son époque, et celle, avec un S, d'après. Mais maintenant nous sommes en France en 2021. La scène rock mute et semble être en bonne voie pour se féminiser. Des jeunes groupes féminins aux refrains engagés se forment et tournent à travers le pays. Mais ces femmes sont-elles des Riot Girls? Et puis, est-ce qu'on a encore Riot Girls en 2021? Maintenant, on est quoi? On dit quoi? On milite pour quoi? Quand je vais voir Tabloïd et Slurp en concert, est-ce que j'ai raison de voir en elles des versions 2021 des Riot Girls des années 90 à Olympia? Nous sommes en 2021. Qui sont les néo-émeutières? Pour l'écriture de ce podcast, je me suis longuement questionnée sur l'origine de mon intérêt pour ce sujet. Comment est-ce que j'ai connu le mouvement Riot Girl? J'ai passé une bonne partie de mon adolescence à traîner sur des blogs. Génération Internet, comme beaucoup, j'ai passé de longues heures enfermée dans ma chambre à scroller et à discuter avec mes amis en ligne. En découvrant des sites comme Tumblr, j'ai eu accès à des dizaines d'informations que je n'aurais sûrement pas croisées de sitôt pendant mon adolescence. Face à cette foison de centres d'intérêt nouveaux, parmi lesquels je n'avais qu'à choisir, j'ai sûrement vu passer des photos de Caitlyn Anna, et puis ensuite sûrement quelques phrases d'empouvoirment. Et puis des vidéos de filles qui jouent de la musique. Et un lien s'est fait. Il y avait toujours cette esthétique destroy girly qui était si cool à voir. Comme beaucoup d'adolescentes, j'ai eu besoin de me qualifier de quelque chose. J'ai choisi que ce serait punk parce que ça semblait un peu fourre-tout et que c'était stylé. Alors j'ai customisé mes vestes, troué mes jeans, brodé des patchs avec tous les meilleurs slogans chinés sur internet. Not your babe, pas ta chérie. Why diet when you can riot? Pourquoi faire un régime quand tu peux te rebeller? Et j'en passe. C'était être si cool que de dire non. Et puis ça me parlait d'être une fille et de ne pas me taire. C'est ce que nous dit Manon, activiste féministe.
J'ai commencé, je dirais, dans mes années d'adolescente qui essayait de se trouver. Et je me rappelle d'une fois avoir regardé The Runaways. Et je suis un peu tombée amoureuse de Joan Jett, qui était en plus jouée par Kristen Stewart. Donc bon, voilà, hein, la petite queer que j'étais était comblée. Mais du coup, ouais, non, ce groupe-là avec Joan Jett. Et puis après, je suis allée écouter les sons les plus vieux, les plus connus, les plus... voilà, et puis ça m'a un peu lancée là-dedans, quoi.
Donc ouais, donc t'as commencé un peu par hasard en regardant un film.
C'est ça. Et voilà. Une recherche de films lesbiens, comme on faisait à l'époque.
D'accord, ok. Ouais, tu t'appelles genre film lesbien sur Google.
Film lesbien de ouf. Film lesbien rock.
Les mots-clés principaux.
La première approche, donc, elle a été esthétique et découlait d'une recherche d'identification, d'appartenance à un groupe. Le mouvement Riot Girls, c'est un mouvement artistique global, c'est du visuel. C'est des collages, du montage, de la photo, en réutilisant les couleurs pastel, et notamment le rose qu'on associe aux petites filles chouineuses, et en le couplant avec les meilleurs petits dessins de couteau, ça annulait. Ça rendait les filles dangereuses. Au moment où je tombe sur ce morceau, nous sommes dans les années 2010, presque 20 ans après l'apogée du mouvement. Et pourtant, des adolescentes de 14 à 18 ans continuent d'épingler les meilleures photos inspirées de cette esthétique. Encore aujourd'hui, baladez-vous sur Pinterest et comptez le nombre d'affiches, photos, dessins revendiqués Riot Girls que vous croiserez. Vous ne pourrez pas, il y en a trop. Des anciennes mais aussi des récentes. Et chacune trouve encore leur public. Entraînant sur Pinterest, qui nous redirige vers d'autres sites, il n'est pas rare d'arriver sur des blogs où des femmes parlent et échangent, ainsi que sur leurs boutiques en ligne. Des boutiques indépendantes, tenues donc par des femmes et ou des personnes queer, qui vendent leurs propres fanzines, comme les Riot Girls distribuaient les leurs à la sortie d'une fac ou à une soirée. Le code ne s'est pas perdu. À une époque où l'échange d'informations se veut plus rapide que jamais grâce à Internet, il est tout de même légitime de se demander pourquoi nous revenons au format papier. Pourquoi les idées qui sont imprimées, que l'on va devoir poster, qui vont demander peut-être une dépense, ne peuvent-elles pas juste voyager à l'aide d'un clic? Parce que le concret. C'est le concret qui charme, c'est le concret qui donne du relief à l'idée. C'est plaisant d'aller ouvrir sa boîte aux lettres et de recevoir un magazine qui vient de loin. Le magazine a un début et une fin, lui. On sait dans quel sens on va quand on le lit. On touche son contenu. Et quand il est revendiqué féministe, on sait précisément de quoi il va parler. On sait qu'il va aller dans le sens d'une pensée émancipatrice. Les idées sont ancrées quelque part. Je pense que c'est rassurant. Les plus mauvaises langues crieront communautarisme et tant pis pour elles, mais je crois vraiment que c'est agréable de tourner des pages et de savoir qu'aucune information malveillante ne va nous sauter au visage en tentant d'invalider nos expériences. Les magazines féminins, comme Women Who Do Stuff et Gays Magazine, sont les héritiers directs des fanzines format A5 collés à la va-vite. Ce sont les néo-manifestes de l'émancipation féminine. Fait par des femmes, pour des femmes, on abandonne le male gaze, on quitte les rubriques minceurs et on dépasse même les articles de fanzines criant la légitimité des femmes. Là-dedans, maintenant, on écrit avec le regard féminin, sans s'excuser et sans se justifier. Est-ce que les Riot Girls et leurs fanzines sont l'inspiration numéro 1 de ces magazines contemporains? Peut-être. À vrai dire, je sais pas trop, voire j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on peut dire que c'est sûrement eux qui leur ont ouvert la voie.
Tu m'as fait découvrir ça et je me suis vite reconnue dedans.
D'accord.
Ça m'a permis de me dire que j'étais pas seule, de me dire que y avait des meufs qu'on voyait et qu'il y avait plein de styles différents et que... Elles étaient toutes différentes et que je me suis reconnue dans ça.
Notre génération repose et fonctionne principalement par le biais des images. La représentation joue un rôle important dans le principe d'identification. Alors oui, les Riot Girls, c'est du visuel. Beaucoup de visuel. Et cette présence d'images permet de se sentir moins seule, de se créer des modèles.
Ouais, moi, quand j'avais 14 ans et que je sortais avec des filles, je voulais avoir... J'avais pas d'identification, quoi. J'avais pas de quelqu'un, je trouvais personne qui me ressemblait. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui est les chaînes YouTube et tout ça, on peut au moins faire passer des messages sans concrètement dire be a lesbian for life,
ouais.
Mais au moins faire montrer des images qui sortent un peu du système hétéro, quoi.
Croiser ne serait-ce que du regard d'autres femmes qui ont fait d'autres choses, c'est rassurant. Ça aide à se sentir moins seule, à se motiver. Et ça donne l'impression d'avoir le droit. Et puis c'est pas qu'une impression. En effet, les filles, vous avez le droit.
te dis, nous on a commencé le groupe, on était genre, ah, on a envie de faire du rock, mais tu sais, genre tout calme et tout.
Ouais.
On n'osait pas, quoi, comme si personne ne nous avait jamais dit, les filles, vous avez le droit de monter le son de la guitare, vous avez le droit de vous lâcher sur scène, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. Et c'est le fait de grandir, la maturité, de lire des bouquins à droite à gauche, de. Tu sais, par exemple, quand tu regardes un groupe de nanas, style les Runaways ou les L7, quand j'étais jeune, je comprenais pas à l'époque. Moi, je trouvais ça fun. En fait, maintenant, en ayant des yeux de meuf un peu plus grandes, t'es là, genre, j'ai compris que c'était politique et que c'était hyper important, ces groupes-là, pour les représentations, encore une fois. On tient à souligner la particularité d'être des filles et de faire du rock et de montrer qu'on n'est pas beaucoup aujourd'hui en France. Mais c'est pour ça qu'on le dit haut et fort, et voilà.
Lou est la chanteuse et guitariste du groupe Toyblowin, majoritairement féminin. Le groupe a récemment sorti son deuxième album intitulé Modern Love, qui lui a valu une prise de conscience concernant son droit à la parole.
Pour le deuxième album, ouais, on s'est rendu compte, en fait, le premier album, c'était un garçon qui écrivait les paroles, c'était notre batteur, parce qu'on était... Moi, j'étais pas sûre de moi du tout dans l'anglais, dans ce que je voulais retranscrire et tout. J'étais vraiment pas à l'aise. Puis j'étais jeune, hein, le groupe, on a commencé, j'avais 15 ans, quoi. Donc, j'étais vraiment pas à l'aise avec le fait d'écrire des paroles et de dire des trucs perso. Et le deuxième album, ça a complètement été différent. Le réalisateur avec qui on a travaillé, il m'a dit, c'est bon, arrête de te poser des questions, arrête de toute la pression, maintenant ouais. T'écris un truc et demain je veux 4 textes. Donc du coup, le fait d'avoir pris une petite claque, juste le fait de m'avoir fait comprendre que j'avais le droit de parler, ça a pas mal changé de choses. Et donc du coup, oui, c'est ce que tu dis, le deuxième album, il y a des chansons qui appellent clairement à, comme tu disais, ça appelle à parler de sujets d'histoire d'amour, d'être homo, de s'accepter tel que tu es, peu importe ta religion, ton sexe, ton corps et tout ça, quoi. Donc...
En tant que femme, que personne minorisée, l'intime est politique. Alors chanter ou jouer d'un instrument, être présente sur scène tout simplement, relève d'une action qu'on ne peut pas considérer comme anodine. Avec des chansons aux paroles engagées, le message est clair. La porte est fermée aux interprétations tierces. Les choses sont dites clairement. Les sujets bien trop divers générés par le sexisme sont abordés sans filtre, sans dire pardon. Margot et Manon du groupe Slurp le disent.
Après, je pense que genre, ce qui reste aussi comme fond, c'est genre... l'idée de genre essayer de créer un safe space pour tous les gens qui viennent nous voir en concert par exemple, qui je pense est genre reste malheureusement, et c'est très triste, un truc de genre groupe engagé, tu vois, alors que à mon avis je pense que ça devrait être fait à chaque concert, tu vois, ça prend deux secondes de dire faites attention les uns aux autres, amusez-vous, tu vois, genre
tapez-vous sur la gueule mais avec amour s'il vous plaît.
Genre tu vois, je pense que dans notre public il y a pas mal de genre personne, par exemple, issue de la communauté LGBTQ+, ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, c'est des trucs où ça fait plaisir, parce que tu te dis, genre, soit qu'ils se reconnaissent dans, genre, ce dont on parle dans nos morceaux, soit que, quand ils viennent nous voir en concert, ils se sentent, genre, appartenir à quelque chose, et du coup, c'est chouette, tu vois. Mais en tout cas, ça fait plaisir, puis ça veut dire que, genre, nos chansons, un peu avec des messages et des trucs comme ça, elles sont entendues aussi, et quelqu'un s'y retrouve, et ça, je pense que c'est aussi un peu punk et chouette, tu vois.
Donc oui, l'identification aide à se sentir moins seul, à assimiler l'idée selon laquelle on a le droit. Claire a 36 ans et elle a découvert le rock vers ses 11 ans. Les Offspring sont son premier amour, elle lisait les revues Rock Sound au collège et en discutait avec son cousin, mais ce n'est que plus tard qu'elle découvre le rock féminin.
Et après, j'ai rencontré Brody Dale des Distillers, et là je suis tombée amoureuse. Amoureuse de sa voix, amoureuse d'elle, parce qu'elle est magnifique, genre. Et à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai que quand je serai grande, je veux être Brody Dale ou alors l'épouser. Voilà. Mais bon, vu qu'elle est mariée, je pense que... je ne pourrais peut-être pas l'épouser, mais ça, c'est parce qu'elle ne me connaît pas encore. Ouais. Mais ça aide dans le sens où tu te dis, ah, putain, je ne suis pas toute seule. Enfin, je ne suis pas toute seule avec ces idées-là. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a des fois où tu te dis, enfin, tu as l'impression d'être juste dans ton coin, quand il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, même si en général, on traîne tout de même avec des gens, on fréquente les personnes avec qui on se ressemble plutôt, enfin, plutôt pas mal, quoi, même si c'est toujours intéressant d'avoir des idées contraires. Mais bon, faire des débats et des battles d'idées tout le temps, c'est vite fatigant. Alors quand en plus on peut te le mettre en chanson avec un petit air entraînant, c'est-à-dire c'est encore mieux, quoi. Donc bon, ouais, non, c'est ça, se dire, ouais, je suis pas toute seule, il y en a d'autres qui ont ces idées, ça se trouve, ça va aussi regrouper plus de personnes et tout, enfin, c'est plutôt, ouais, j'aime bien.
Face à des exemples puissants, être une minorité ne semble plus être tant un fardeau. On a la preuve que c'est ok d'être soi-même sans s'excuser. Petite victoire que cette prise de conscience. Sorte de goût de revanche. Qu'en 2018, moins de 25% des artistes programmés en festival soient des femmes et que des espaces de la société leur soient toujours refusés insidieusement, ça craint. Mais ok, dans ce cas, elles créent les leurs d'espace et elles les rendent safe à la façon des ateliers de musique et d'empouvoirment pour les femmes de Salut les Ziquettes, par exemple. Girls to the front. Elles font la musique qu'elles ont envie de faire, elles chantent ce qu'elles ont envie de chanter, elles parlent de leur combat. Alors très lentement, il semblerait que ça fasse un peu bouger les lignes. Progressivement, on programme des groupes féminins sur des soirées. Ça y est, on est en bonne voie pour réussir, non?
Nous, on en est toujours à pas avoir de concert parce qu'on n'a pas envie de faire les Girls' Night et qu'on a envie de jouer avec des vrais musiciens. Et c'est qui les vrais musiciens? C'est ceux qui ont des tubs, tu vois. Enfin, genre, c'est... Ouais, et en plus, c'est là où il y a tout le paradoxe de ce qu'on veut revendiquer. Parce que nous, on n'a pas envie d'être un groupe de meufs, on a envie d'être un groupe de musique.
Ouais.
Mais en même temps, on est obligé d'être un groupe de meufs pour pouvoir être accepté quelque part dans ce truc de bah du coup, vu que vous êtes un groupe de meufs, vous allez pouvoir jouer à une soirée de groupe de meufs et t'as envie de le faire parce que t'as envie qu'il y ait plus de groupes de meufs.
Ouais.
Mais en même temps, t'as pas envie de le faire parce que t'as envie d'être un groupe normal.
Ouais. Et tu cours comme ça. Tu fais que oh, ce soir, on a le quota de une fois par mois dans cette salle de concert, on va inviter des filles à jouer, on va toutes les mettre ensemble, tu vois. Et t'es là genre.
Ouais, c'est tout.
Du coup, c'est cool, mais c'est juste chiant qu'on en soit toujours à ce stade de on doit passer pour le truc un peu exotique et funky qui arrive pas trop souvent pour en arriver à la normalité.
Ouais.
Mais c'est juste chiant que ça a déjà été fait il y a 20 ans, il y a 30 ans,
ouais,
il y a 40 ans, et que nous, on soit encore là à se dire on est un groupe de meufs alors qu'en fait, on est juste un groupe de musique.
Loupé. Retour à la case départ. On y a cru pourtant, hein, ça semblait bien parti. Les groupes féminins deviennent donc le produit exotique qu'on vend pour faire joli sur l'affiche. On les reconnaît pas pour leur qualité musicale, mais pour leur simple genre. Face à ce mouvement, on a un peu l'impression que la volonté d'être intégrée dans l'espace public au même titre que les groupes masculins n'était rien d'autre qu'un caprice auquel les programmateurs auraient gentiment cédé. Mais elle joue quand même. Et là, ça se corse en termes de réflexion. Est-ce qu'on la veut cette place sur scène? Oui. Parce que c'est rare les groupes de punk féminin et que finalement, quand on se voit proposer une date, on semble pas vraiment pouvoir refuser. Safia Nolin confiait aux caméras de Kaina Atamrouche Hachi et Céleste Ramis pour Soror Sonore que dans le fond, ça ne l'insulterait pas d'être bookée sur une programmation juste parce qu'elle est une femme. Pour elle, c'est la seule solution en ce moment. Les femmes semblent alors devoir encore une fois jouer les petites créatures douces et tendres pour se voir offrir une place sur scène, signe de récompense de leur gentillesse dans le monde masculin de la musique. Pour une fois le spectacle commencé, arracher ce masque et mettre le feu à la salle sous le regard dépité des programmateurs qui, évidemment, se sentiront trahis, eux qui les pensaient si inoffensives. Non, jamais. A girl is a gun, messieurs. Une femme est une arme. Au moment où j'écris ce podcast, la chanteuse Pomme a été primée artiste féminine de l'année 2021 en Victoire de la Musique. Quelques jours avant sa nomination, elle publie un papier intitulé « De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses ». Aspect de petite victoire qu'une musicienne qui parle, qui dit ce que l'on fait passer pour inavouable depuis des années, se voit enfin récompensée. Elle écrit être quelque part entre la colère, le repos, la révolte et le lâcher prise. Colère, révolte, encore et toujours. Ne passons pas par quatre chemins. L'industrie musicale, au même titre que l'industrie cinématographique ou l'industrie de la presse, ou simplement la majeure partie des industries, est fondée à l'image de la société. Patriarcale, blanche, raciste et validiste. Ça fait beaucoup. Pomme parle d'un monde parallèle, finalement pas si éloigné de l'organisation globale d'une société dangereuse pour les jeunes filles.
C'est ouf parce que parfois je dis des trucs genre de Riot Girl ou des trucs comme ça, tu vois, genre des extraits de leur zine ou des trucs comme ça, et je me dis putain, on en est au même point, tu vois, genre on en est au même moment. T'es dans un truc où tu te dis comment est-ce qu'un mouvement aussi énorme, enfin en tout cas, genre moi ça me paraît gigantesque les Riot Girl, tu vois.
Ouais.
Comment un mouvement aussi énorme a pu arriver et on en est toujours à parler des mêmes choses, tu vois.
Voilà donc presque 30 ans que les Riot Girls ont fait résonner leur premier riff vénère et pourtant le combat reste inchangé. Encore une fois, nous pourrions nous réjouir des avancées qui ont eu lieu et à juste titre. Oui, il y a de plus en plus de petits groupes rock féminins qui grandissent. Oui, la parole commence enfin à être plus écoutée. Oui, des événements comme le Riot Girls Festival ou le DIY Fest, anciennement Lady Fest, existent. Oui, les scissions de l'espace public sous prétexte du genre commencent à s'effacer. Cependant, voilà. À une époque où l'on envoie des robots sur Mars, on a toujours le sentiment de se trouver dans une position difficile quand il en vient à considérer les femmes comme des humains à part entière. Bon, je grossis les traits ici. Ou peut-être pas tant que ça, finalement. Le combat est le même. Prenant peut-être une autre forme, certes, mais il reste le même parce que la société dans laquelle il s'inscrit ne change pas, et se contente de peu. Elle continue d'être pensée par et pour des hommes, et ça met en colère.
La colère, ça permet d'avancer. Il ne faut pas rester enfermé dans la colère, mais j'essaye de ne pas rester enfermé dedans pour pas que ça pourrisse, pour pas que la colère devienne de la haine après. Le but, c'est que ce soit une sorte de colère saine et qui t'aide à avancer, parce que ça peut aider aussi à avancer en disant bah, « je vais leur montrer à tous ces gros connards que... » Et bien que je peux faire des trucs de ouf. Et donc bah, ta colère c'est ton petit moteur, tu vois, c'est ton essence.
Petit moteur, essence, et en route alors. Quand Manon Labrie, autrice de Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe et émeutière Pussy Riot Girls, m'apprend que depuis les années 2000, des colonies de vacances pour jeunes filles de 7 à 18 ans grandissent, d'abord à Portland aux États-Unis, puis au Canada et en Europe, colonies au sein desquelles on leur apprend à jouer de la musique en groupe, je me dis qu'on est loin d'avoir tout perdu, voire même qu'on a tout à gagner. Quand elle me parle de Julie et Victoria et de leur association Salut les Iquettes qui apprennent les basiques de la musique aux meufs adultes pour pouvoir jouer en groupe sereinement, je me dis que cette colère qui semble si brute initialement ne fait qu'attendre qu'on en fasse quelque chose. Claire nous l'a bien dit. Stagner avec sa colère, c'est ce qui la rend nocive. La colère, c'est un matériau à transformer. Limiter l'accès à la scène aux femmes, c'est les faire stagner et donc attiser cette colère légitime. Leur interdire d'être énervées, c'est jeter de l'huile sur le feu. Et tant pis pour ceux qui se brûleront, on avait prévenu, et on ne s'excusera plus. Une fois que les jeunes filles sont en feu, elles sont incandescentes. En se réappropriant la scène, elles se réapproprient aussi leur colère, deux éléments qu'on leur a interdit bien trop longtemps.
Mais après, la colère, bien sûr qu'elle est légitime. Attends, on se fait marcher dessus et cracher dessus depuis des millions d'années, là. Il y a un moment, je pense qu'on a le droit de laisser s'exprimer, enfin, exprimer cette colère. Donc ouais, pour moi, les colères sont légitimes, de toute façon. Et il faut se l'approprier, la colère. Et on a le droit d'être en colère.
Le ras-le-bol amène donc à la création, comme le prouvent toutes les initiatives musicales telles que le festival Comme nous brûlons ou la web radio Radio Tempête qui se veulent non mixtes. Et puis il y a aussi toutes les plateformes salvatrices, que sont Music Too ou Change de Disque, qui récoltent des témoignages concernant le sexisme structurel du milieu de la musique, menant parfois à des dérives d'ordre moral et physique grave.
Et juste d'avoir tout ce qui est laissé passer au type, est-ce qu'une pauvre meuf, dès qu'elle va élever la voix, c'est une dingo, c'est une hystérique, mais elle est tous vous faire foutre, tu vois. C'est un type, on le laisserait faire, tu vois.
Rapidement, le créatif se mêle aux politiques et la colère devient militante.
Est-ce que tu penses que la musique, c'est un moyen de faire la politique ?
Bien sûr. C'est un moyen déjà de faire passer des messages. J'ai une anecdote typique où on a eu, pendant notre petite parenthèse entre confinement et déconfinement où on a pu un peu vivre mais toujours masqué, toi et moi on allait au Trabendo 2-3 fois et en fait on voyait des mecs jouer sur scène et c'était très cool, aucun souci. Et 2 secondes après il y avait des meufs qui ont pris la relève et en fait on les respectait pas autant que les mecs avant quoi. On jetait des trucs sur scène. Il y avait certains mecs prenaient énormément de place dans le public quoi.
Manon mentionne le fait que Slurp est explicitement demandé au public d'être cool les uns avec les autres.
Et ça a fait du bien parce que 2 secondes avant on cassait les couilles. 2 secondes avant il y a un PO qui est venu en nous disant est-ce qu'on peut se mettre, qui était complètement arraché d'ailleurs mais c'est absolument pas une excuse, qui en nous disant est-ce que je peux me mettre là, non tu prends de la place, vas-y moi je vais me mettre à côté de toi et non je vais être avec toi, oui non en fait je suis juste là pour écouter de la musique, des meufs que je kiffe donc Donc fais ta soirée et bouge de là, quoi. Me saoule pas, surtout quand je t'ai déjà dit non une fois. Comprends que on n'est pas là pour ça.
Eh oui, non, c'est non. Peut-être, c'est non. Si c'est pas oui, c'est non.
C'est non.
Il y a une sorte de petite revanche, ouais, c'est pas politique, je veux pas dire que c'est pas, enfin, je veux pas dire que c'est politique, parce qu'on n'a pas non plus un, on n'a pas de slogan, en fait, on n'a ouais. pas de, de, on n'est pas mili, enfin, on est militante, mais à notre façon, quoi. Et, ouais, c'est pas anodin de d'être un groupe de rock. En plus, il y en a pas beaucoup, je te dis, en tant que nana aujourd'hui, donc, il y a des festivals, ouais, bah, il y a que nous, en fait. Il y a que nous comme filles sur scène. Et c'est pas anodin. Et si on est que toute seule, c'est qu'il y a un réel problème d'acceptation des nanas dans le milieu, et il y a un truc culturel chelou, le groupe rock, il doit rester entre mecs, bah, non, en fait, quoi. Donc, ouais.
Quand les musiciennes se défoulent et expulsent leur rage et racontent ce qui les habite, il y a cet élément cathartique. Quand on les regarde depuis la fosse, on pourrait presque avoir l'impression qu'elles lancent quelque chose loin devant elles. Le mouvement Riot Girls, initialement underground, ayant ensuite connu une période plus mainstream, semble maintenant réussir à flirter adroitement avec les deux opposés, et via les nouveaux groupes féminins revendiqués ou non Riot Girls, l'idéologie réussit à toucher un public de plus en plus large. En effet, les luttes intimes de personnes minorisées sont enfin abordées, et quand bien même ça pourrait déranger, Margot et Manon de Slurp estiment qu'elles ont au moins planté la graine de la réflexion, et c'est tout ce qui compte pour elles.
C'est en tout cas faire en sorte que, à notre échelle, on puisse faire avancer les choses juste en essayant d'inclure le plus de personnes possible et surtout en toujours en rappelant à tout le monde que tout le monde a sa place d'être ici et que et qu'il faut respecter les autres et qu'il faut faire attention aux autres et que et c'est important juste de faire en sorte que tout le monde trouve sa place et que si t'as envie de faire de la musique, bah, fais de la musique.
Non, et surtout je pense qu'on a une place de choix aussi là-dedans, nous, parce que on a ce truc de pouvoir être écouté, de pouvoir avoir des gens qui viennent nous voir en concert et des trucs comme ça, tu vois. On reste pas la plus minorité des minorités qui existent, tu vois. On est juste des meufs, quoi, tu vois. Genre, y a une... Donc c'est pas un truc où on vit la plus grosse oppression de toute la terre ou je sais pas quoi, tu vois. Du coup je pense que c'est à l'aise que genre on puisse parler de tous ces trucs là et c'est cool qu'il y ait des gens qui veulent nous écouter quand on parle de trucs comme ça, parce que je pense pas que c'est donné à toutes les minorités.
Ouais, c'est quand même globalement toujours parlé assez généralement pour éviter aussi de prendre la parole pour à la place des gens que nous on peut absolument pas comprendre. Du coup c'est
on parle de trucs qui genre nous touchent et puis personnellement et on en fait quelque chose, quoi, tu vois, genre je pense que genre c'est ça qui nous fait plaisir dans la musique qu'on fait aussi, c'est que genre juste on est un peu brut là dedans et que genre on a des paroles qui sont parfois un peu crues et un peu vénères, tu vois, et genre je crois que ça plaît aussi aux gens parce qu'ils ont peut-être pas l'habitude d'entendre des trucs comme ça.
Ce soir du 23 septembre 2020, en parlant de leur réalité de femmes queer, de femmes queer qui font de la musique, Slurp et Toybreed ont sûrement créé la discussion dans la foule, parce qu'en effet, comme le dit si bien Apolline Bazin, créatrice du site d'information culturelle Manifesto 21, les industries culturelles sont des industries politiques. À ce fameux concert, Raphaël Ludry, journaliste pour Rock and Folk, passa dans la foule, micro tendu, en demandant ce que c'était qu'être punk en 2020. Je me suis permise de lui emprunter sa question.
C'est drôle l'ironie de être punk avant, c'était être sale, en avoir rien à foutre de ce que tes parents te disent, être hyper anticonventionnel, anticapitaliste, et aujourd'hui, nous, on cherche à pas être connu, mais avoir un minimum de popularité, pour avoir un minimum d'argent, pour avoir un minimum d'envie de continuer le projet, tu vois. Enfin, c'est quand même grappillé. Enfin, c'est une galère en vrai. Mais c'est une bonne galère, au moins on regrettera pas après.
Ouh, ça c'est vaste. Oh, ça j'aurais bien. C'est plus ou moins anticonformiste aussi, quand même. C'est en avoir rien à foutre. C'est apporter de l'importance à certaines choses, mais en règle générale, en avoir rien à branler, tu vois. Enfin, genre, pas forcément avoir une crête et des épingles à nourrice partout, tu vois. Non, non, ça n'a rien à voir avec un style pré-défini. C'est... Et c'est, ouais, c'est en avoir un peu rien à battre, quoi. Et boire de la bière tiède.
Oh.
La première représentation d'une punk que j'ai vue dans ma vie, c'est ma mère. C'est ma mère qui se laisse pas faire. C'est ma mère qui a une grande gueule, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui, quand ne sait pas, ferme sa gueule, mais quand elle sait, en fait. Et elle est militante à sa manière, un peu. Moi, il y a un peu de féminisme dans le punk, et un peu de punk dans le féminisme. Et voilà, après, c'est deux choses distinctes, mais qui se rejoignent quand même à un moment, donc bon.
Je me suis permise de lui emprunter sa question et d'y ajouter « Et c'est quoi être féministe en 2020 ?»
Putain, faut que j'organise mes idées, là. C'est déjà être pour l'égalité, homme-femme. C'est être aussi ouverte. C'est ça. Et puis, c'est aussi de la tolérance, quoi. Enfin, c'est pas se dire, ouais, bah voilà, moi, je suis féministe, mais bon, t'as vu cette connasse, enfin, comment elle est sapée, ou je sais pas
ouais,
quoi.
C'est pas taper dans les chevilles des copines, quoi.
Et c'est surtout, ouais, une bonne grosse entraide aussi entre meufs, parce que bon, on se fait suffisamment tirer dessus par tout le monde, tout le temps, quoi que tu fasses, quoi que tu... Comme, peu importe comment tu peux être, machin, etc. De toute façon, dès que t'as une chatte et des nibards, ou que t'es une meuf, tu vas te faire désinguer. C'est clair, net et précis, quoi.
Mon féminisme, il est intersectionnel, il est inclusif, et c'est pas qu'une seule lutte, quoi.
On est sans s'excuser aussi nous-mêmes que possible.
C'est ça, être sans s'excuser un seul instant, parce qu'il est urgent pour les femmes d'exister sans plus jamais dire pardon. Dans les années 90, les Riot Girls ont planté, elles aussi, une graine. Idée de réappropriation des corps, des histoires, de l'espace et de la parole via la musique. Leur réel héritage n'est pas une esthétique ou bien un son particulier, au contraire. Il est question de faire grandir leurs idées dans le contexte au sein duquel on y a recours. De développer d'autres formats avec les outils qu'elles nous ont tendus. Oui, les groupes de rock féminins ont toujours existé, et oui, elles sont présentes sur la scène. Dire le contraire, ce serait être de mauvaise foi. Mais ce n'est pas aux quelques groupes qui acquièrent une certaine notoriété qu'on laisse la tête d'affiche, ou en tout cas, bien trop rarement. Et bien souvent, quand ça arrive, c'est à des prix dont la proposition ne mérite que d'être punie par la loi. Le ras-le-bol partagé n'est pas un mythe. Ras-le-bol de Ster. Ras-le-bol du syndrome de l'imposteur qui nous fait croire qu'on n'est pas assez doué pour se mettre à la musique.
Ça ne sert à rien, les skills. Ça ne sert à rien, les skills. Vraiment, on sait toujours pas jouer de musique. Hein. Nous, on sait juste.
Le seul truc qu'il faut, c'est l'envie et genre l'énergie.
Ras-le-bol des mains aux fesses dans la foule. Ras-le-bol de la peinte que tu ne dois surtout pas quitter des yeux pour t'assurer que personne n'y ajoute quoi que ce soit. Ras-le-bol de devoir prouver sa légitimité. Ras-le-bol des abus de pouvoir machistes sous prétexte que la musique est un milieu dans lequel les places sont chères. Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Tellement ras-le-bol que le punk féminin et féministe semble être une bonne solution. À travers le bruit et par-dessus les barricades. Les Riot Girls sont mortes. Vive les Riot Girls. Vive les néo-émeutières. Ce podcast a été écrit et réalisé par moi, Faustine Moulin. Les informations concernant les groupes entendus et mentionnés sont toutes dans la description. Allez les écouter fort et acheter leurs CD, ils le méritent autant que vous. Je remercie toutes les Manon, Néo et Meutière qui ont participé à ce projet. Manon et Claire pour leur euphorie et amour constant. Manon et Margot de Slurp pour leurs mots et leur disponibilité. Manon Labrie pour ses précieux conseils et son soutien. Énorme merci à Lou de Toyloïd pour sa patience, à Radio Tempête qui lui a donné sa chance, et je pense à Félix qui a abandonné le navire. Tu aurais dû rester, regarde ce que tu loupes. Et j'attrape mon téléphone pour remercier le dernier arrivé, Arthur Chopin, qui s'est occupé du mixage. Merci à tous les soutiens divers et à vous, qui avez écouté Néo et Meutière.